Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie et restez avec nous pour ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Pierre Racine, auteur d'une biographie consacrée à Frédéric Barberousse, une biographie parue chez Perrin. Pierre Racine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien médiéviste, professeur émérite à l'université Marc Bloch de Strasbourg.
L'université Marc Bloch n'existe plus. Nous n'avons plus qu'une seule université à Strasbourg.
Et qui s'appelle donc ?
L'université de Strasbourg.
Tout simplement. Vous êtes également membre de l'Institut Lombard, qui lui existe toujours bel et bien. Vous êtes effectivement spécialiste de l'Italie médiévale, liée, comme nous allons le voir, à notre sujet. Auteur de nombreux ouvrages, je renvoie nos auditeurs à notre site internet. Vous venez donc de publier chez Perrin une biographie consacrée à Frédéric Barberousse, un ouvrage préfacé par Francis Rapp, membre de l'Institut. Et Francis Rapp le dit dès les premières lignes de votre travail, Barberousse est, je cite, un personnage tout à la fois historique et légendaire. Cette légende, eh bien, traverse les siècles. C'est un mythe dont le romantisme va s'emparer, le sentiment national aussi, parfois le nationalisme également. Mais cette légende, malgré tout, se lit difficilement puisque Barberousse est généralement confondu avec son petit-fils, le fameux Frédéric II Hohenstaufen, souverain tout aussi messianique. L'un domine le XIIe siècle, l'autre est un contemporain de Saint-Louis. Mais Frédéric II Hohenstaufen semble éclipser en quelque sorte Frédéric Barberousse. Comment expliquer, Pierre Racine, cette confusion, cette sorte de substitution dans la postérité?
Cette substitution dans la postérité qui s'est faite surtout au cours du XIXe siècle a été tout de même préparée dans les siècles précédents par le fait que Frédéric II, le petit-fils de Frédéric Barberousse, avait dans son temps une aura particulière. Et pour les Allemands, il était surtout celui qui a essayé de pouvoir monter un État moderne. Et c'est particulièrement à travers un des textes les plus fondateurs de l'État moderne, ce qu'on appelle le Libera Augustalis, ou bien ce qu'on appelle aussi le Code de Melfi. C'est un rassemblement, en fait, de lois qui viennent des ancêtres de Frédéric II, des ancêtres normands, et non pas allemands, des ancêtres normands, et il y a ajouté quelques textes personnels pour montrer comment pouvait se construire un État moderne. Et Frédéric Barberousse n'a pas eu, si je puis dire, ce bonheur, puisque lui, il a surtout construit un État qui était encore un État féodal. Avec Frédéric II, on passe véritablement à la genèse de l'État moderne.
Alors nous allons revenir sur cette féodalité qui est très importante, notamment à travers le procès de son cousin Henri le Lion. Tous les deux, et Frédéric II et Frédéric Barberousse, sont liés à l'idée de recréation, de régénération de l'Empire. Les deux sont liés à un messianisme politique, mais le messianisme est également religieux. C'est propre aux temps médiévaux, ce messianisme ?
Le messianisme religieux est absolument propre aux temps médiévaux. Et ce messianisme, on le retrouve tout au long du Moyen-Âge. Et ce messianisme, disons qu'il commence avec un individu comme Charlemagne, qui a tout de même eu une prestance et qui a eu un héritage considérable pour tout le Moyen-Âge. Frédéric Barberousse sanctifiera Charlemagne. Il en fera, si l'on peut dire, un saint qui devrait être ensuite rejeté par l'Église. Mais c'est l'image même de ce Messie que devait être Charlemagne. Et n'oublions pas que dans le cadre religieux, Charlemagne a une importance particulière dans l'histoire de l'Église d'Occident, car c'est lui qui est en quelque sorte à l'origine de cette cassure entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient, ce qu'on oublie trop souvent. Car en effet, c'est lui qui nous a imposé, et le pape a suivi, la procession du Fils et du Saint-Esprit, et c'est là que les Byzantins n'ont pas voulu suivre. C'est la cassure de l'Église chrétienne, celle qu'on date de 1054, qui en fait est surtout visible en 1204 avec la quatrième croisade et la fondation d'un empire latin d'Orient.
Alors vous me donnez une opportunité puisque vous évoquez l'empire d'Orient. Frédéric, là nous parlons de Frédéric Barberousse, domine le XIIe siècle européen. Oui. Et il domine le XIIe siècle européen et on a l'impression de voir une sorte de transfert de la réalité politique impériale de l'Orient vers l'Occident. C'est-à-dire qu'on observe une sorte de déclin oriental pour un développement de la couronne impériale occidentale.
Il n'y a pas absolument déclin de la couronne orientale, parce qu'il y a eu ce règne qui s'est mal terminé pour les Byzantins, le règne de Manuel Comnène. Manuel Comnène a été un des derniers grands empereurs byzantins, un de ceux qui a tenté de régénérer cet empire byzantin qui était en voie de déclin. Et malheureusement, Manuel Comnène a subi cette défaite devant les Turcs Seldjoukides à Myriokephalon en 1177. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est Frédéric Barberousse qui reprend en main véritablement tout ce qui est, si l'on peut dire, l'aura impériale en Occident. Et il essaiera plus ou moins, c'est pas très clair, dans sa troisième croisade, mais il sera plus ou moins aussi, avec la troisième croisade, de s'élever au-dessus de la chrétienté.
Alors nous allons revenir bien évidemment sur cette idée de croisade. Avant d'en venir au personnage lui-même et après cette introduction, je souhaiterais revenir sur le contexte exactement comme vous le faites, Pierre Racine, dans votre ouvrage. Et vous le faites de manière un peu inédite. Il est vrai que l'on rencontre rarement une telle présentation du contexte, puisque quasiment le tiers de votre ouvrage est consacré à cette société, à ses pouvoirs, aux forces qui gouvernent. Et on parle souvent du XIIIe siècle comme un temps de renaissance. Or, cette renaissance est déjà bien présente au XIIe siècle. Vous le montrez lors de la première partie de votre ouvrage.
Oui, il était indispensable pour comprendre le règne de Barberousse, pour comprendre la place qu'il a tenue dans l'histoire occidentale, de bien situer tous les éléments qui marquaient l'histoire de cette Europe, et notamment à partir de ce XIIe siècle. Il y a toute une... On parle beaucoup, d'ailleurs, en histoire, de la renaissance du XIIe siècle, plus que du XIIIe. Renaissance du XIIe, qui est plutôt une renaissance culturelle, une renaissance intellectuelle, mais qui est aussi une renaissance de l'idée impériale à travers, justement, ce que a voulu en faire Frédéric Barberousse. Mais c'est surtout son oncle qui lui a donné la ligne directrice pour cette aura impériale, Otton de Freising. Otton de Freising qui lui a surtout, en quelque sorte, inspiré cette idée de l'honor imperii, l'honneur de l'Empire. Car il n'y a pas un programme politique véritable pour Frédéric Barberousse, mais il y a surtout l'idée que l'Empire est l'institution au-dessus de toutes les autres en Occident, à côté du pape, mais c'est aussi une institution qui doit être pleine d'honneur, qui doit être honorée.
Mais est-ce que vous pourriez décrire, avant peut-être d'aborder ce personnage et cet honor imperii qui est passionnant, nous allons le voir, et qui caractérise ce règne, que voit-on dans ce XIIe siècle sur le plan économique, dans les villes? Voit-on un développement de ces villes? Observe-t-on un trafic commercial qui lui-même se développe?
Ah, le XIIe siècle, c'est le siècle du démarrage des foires de champagne sur le plan économique. Les foires de champagne, c'est le grand rendez-vous entre les gens du Nord et les gens du Midi. Les gens du Nord, c'est surtout les Flamands, mais il y a aussi des Allemands. et d'autre part, les gens du Midi, c'est plus particulièrement les Italiens. Et les Italiens qui viennent surtout du port de Gênes et qui apportent avec eux depuis Gênes, mais il n'y a pas que les Génois, il y a aussi des gens qui sont piémontais, comme des gens d'Asti, des gens de Chieri. Il y a des gens qui viennent de Lombardie, encore que Plaisance n'est pas située en Lombardie géographiquement, mais en fait, elle participe de tout l'essor des villes lombardes, fondées plus particulièrement sur le travail du coton et sur le trafic des étoffes de coton qui sont expédiées à travers toute la Méditerranée. Ça, c'est le grand point, les foires de Champagne qui deviennent un grand rendez-vous commercial au XIIe siècle. À partir de... ça démarre vers 1140 et le plein emploi, c'est 1180. Donc, nous sommes bien parallèles au règne de Frédéric Barbarousse.
On observe aussi un réveil urbain.
Alors, le réveil urbain, c'est surtout en Italie. Mais il a amorcé bien avant. Le réveil urbain en Italie, c'est à partir du Xe siècle. À partir du Xe siècle, ces villes se mettent à travailler notamment le coton. Elles sont approvisionnées, si je puis dire, par la population des environs, ce qu'on appelle le contado. Et on voit ces villes qui, peu à peu, augmentent leur superficie par la construction de murailles. Et ce sont des villes, il ne faut pas se faire d'illusions, ce sont surtout des aristocrates qui dirigent ces villes, et des aristocrates possessionnés dans la campagne. Ce sont donc des féodaux. Et ces villes, il faut bien les concevoir en Italie, dans tout ce noyau italien autour de Milan et entre, mettons, Pavie et le Piémont et la Vénétie. Il y a toute une série, une chaîne de villes, jusque ensuite la prolongation vers la Toscane. Il y a là tout un ensemble urbain qui est hérité partiellement de l'Antiquité, mais qui a une renaissance considérable à partir du Xe siècle. D'abord, il y a eu les évêques qui y ont contribué bien avant déjà le Xe siècle, mais les évêques sont relayés à partir du Xe siècle par les laïcs et plus particulièrement par leurs propres vassaux, dans le cas milanais, comme dans le cas de Plaisance, de Parme et d'autres villes, Crémone notamment, ils sont relayés par ces capitanei, ces vassaux en chef, qui sont en fait des vassaux de l'évêque et qui dépossèdent les évêques de leur pouvoir que leur avaient accordé les empereurs ottoniens.
C'est un monde en mouvement. Est-ce que Frédéric Barbarousse a conscience de ces mouvements, économiques et de ces mouvements urbains ?
Non. Il y a le texte célèbre que j'ai repris dans le livre de Otton de Freising, sa surprise lorsqu'il arrive en Italie en 1154 de voir ces villes qui sont dirigées bien sûr par des féodaux en partie, mais aussi par des gens qui, dans cette société urbaine, savent s'élever. Otton de Freising dénonce ces gens de la plèbe qui sont capables de devenir chevaliers. Pour lui, c'est impossible, lui qui est de la classe aristocratique allemande, que puissent exister ainsi des chevaliers saints du baudrier et devenant ainsi égaux des autres aristocrates possesseurs du sol et du sol en campagne comme en ville.
C'est un monde, qui, en tous les cas, l'empereur germanique est à la fois tourné vers le monde méditerranéen, vers l'Italie et vers la Germanie. C'est ce que nous allons voir un peu plus loin après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant, Pierre Racine.
Percer le secret des chevaliers teutoniques, ordre hospitalier du XIIe siècle, dans l'émission « Un jour dans l'histoire ». Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à Frédéric Barbarousse. Je reçois le professeur Pierre Racine, auteur d'une biographie sur ce personnage, une biographie parue aux éditions Perrin. J'avais laissé nos auditeurs en leur disant que l'Empire germanique est un empire, au fond, qui est à la fois tourné vers l'Italie et vers la Germanie, vers l'Est aussi. Et une des particularités, bien évidemment, c'est la question de cet empire, c'est la question religieuse. Et il ne peut être que tourné vers l'Italie, là où se trouve Rome, là où se trouve le pape. Nous évoquions tout à l'heure les mouvements et les mouvements économiques, mais l'Église également est en pleine réforme.
L'Église était en pleine réforme depuis Grégoire VII, depuis la fin du XIe siècle. Et la réforme de l'Église est un moment capital de l'histoire occidentale, car c'est tout de même à ce moment-là que l'Église a voulu, et elle l'a conservé jusqu'à nos jours, ce désir de régenter le monde laïque. Et en se disant simplement qu'elle le dirigeait sur le plan spirituel, mais en fait, il ne faut pas oublier que les papes se présentaient comme des souverains temporels, puisqu'ils se réclamaient d'un État. Et ils vont s'en réclamer jusqu'à 1870. Il y a encore un État de nos jours qui s'appelle l'État du Vatican, qui en est l'héritier.
Le grand conflit entre les deux pouvoirs va se développer tout au long du règne de Frédéric Barberousse. C'est très net et on a envie de dire omniprésent.
Ah, c'est un conflit violent, souvent d'ailleurs. Un conflit qui est marqué par le fait que Frédéric Barberousse a voulu et a soutenu un pape qui n'était pas légitime. Ces papes, il y en a eu trois, ces papes se sont opposés au pape légitime qui était Alexandre III, et Alexandre III finira par conclure la paix, mais une paix qui est tout à fait, disons, bancale, dans la mesure où il reste toujours des problèmes qui ne sont pas résolus entre l'Empire et la papauté. La paix de Venise, qui marque la réconciliation entre Frédéric Barberousse et Alexandre III, est pleine de sous-entendus d'ailleurs des deux côtés. Et c'est à partir de ce moment-là que Frédéric Barberousse songe plus particulièrement à cette Italie méridionale pour essayer de prendre en étau les États pontificaux.
Alors, avant tous ces épisodes que vous décrivez très précisément, je souhaiterais revenir au moment de l'élection. Frédéric est élu. Il est élu donc en 1152 et on sent dès son élection une véritable volonté politique dans son action. Ceci est très net à vous lire et il part quasiment tout de suite en Italie puisqu'il a besoin en quelque sorte de l'onction pontificale.
Ça, c'est le problème de tous ces souverains germaniques, au moins jusqu'à la bulle d'or en 1356. On ne pouvait porter le titre impérial que lorsque le pape vous l'avait en quelque sorte décerné par le couronnement à Rome. C'est la difficulté entre pape et empereur, justement, que cette couronne impériale, finalement, elle vient du pape. Et l'empereur la reçoit du pape. Et personne ne peut se dire empereur sans avoir été couronné par le pape.
Alors il va en Italie, il y a même un moment, un incident que vous décrivez, puisque la première rencontre se passe très mal.
Oui.
Comment se passe-t-elle?
La première rencontre, elle s'est passée parce que normalement, l'empereur aurait dû tenir l'étrier du cheval du pape. Et ça, il n'a pas voulu, parce qu'il considérait que justement, c'était contraire à l'honor imperii. Il était l'égal du pape et il ne voulait pas être son vassal, car c'est le vassal qui tient l'étrier de son seigneur.
Finalement, il arrive à Rome, mais là encore, à vous lire, on a l'impression que son couronnement se fait un peu en catimini.
En catimini, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que la population romaine aurait dû être associée à cet épisode. Or, cette population romaine, elle était justement chauffée, si je puis dire, par ce moine qui s'appelle Arnaud de Brescia et qui prêchait contre la richesse de l'Église et qui avait organisé, qui avait pris la tête presque de ce qui était le gouvernement communal de Rome. Et la commune de Rome, le pape ne veut pas en entendre parler pas plus que l'empereur ne peut supporter que Rome puisse être entre les mains d'un autre personnage que le pape.
Alors, vous le dites à la fin d'un de vos chapitres, au fond, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est un personnage avec une volonté farouche et une volonté politique. Est-ce qu'on peut dire qu'il a un programme politique, non pas dans le sens moderne du terme ou contemporain, mais est-ce qu'il sent son rôle messianique que j'évoquais tout à l'heure?
Oui, c'est le fait fondamental, c'est qu'il est persuadé de ce rôle messianique. Il n'y a pas de programme politique au sens, vous le disiez parfaitement, ça je suis absolument différent de bien d'autres auteurs précédents, il n'y a pas de programme politique clair, net, qui aurait permis de dire il veut faire ci, il veut faire ça, non. Ce qu'il veut surtout, c'est que son titre impérial s'impose à côté de celui du pape.
À côté ou au-dessus ?
Non, à côté.
À côté.
Jamais au-dessus. C'est pas possible, mais à condition que le pape ne vienne pas empiéter non plus sur ses propres pouvoirs.
Alors, un schisme, vous le disiez, va avoir lieu dans l'Église. Combien de temps va-t-il durer ?
Le schisme va durer presque 20 ans. Le schisme commence en 1159, il s'achève en 1177. Donc c'est quand même un temps, c'est 18 ans, c'est tout de même très long. Et c'est tout de même un moment où il y a eu une cassure, tout de même, même au sein de l'Église occidentale. Car il ne faut pas oublier que les évêques allemands, notamment, la plupart d'entre eux étaient partisans du pape de Frédéric Barberousse. Il ne faut pas oublier non plus que même en Occident, le roi de France, le roi d'Angleterre n'étaient pas ralliés de manière très claire et très ferme à Alexandre III. Et dans ces conditions, il y avait donc un flottement, si l'on peut dire, au sein de cette chrétienté occidentale face justement à ce schisme qui s'était dessiné en 1159.
C'est un échec pour Frédéric Barberousse au final ?
Ah, je ne dirais pas que c'est un échec. Moi, je dirais que c'est au fond une réconciliation qui était indispensable et que Frédéric Barberousse a bien compris. Il ne pouvait pas, si l'on peut dire, régner en étant constamment l'adversaire du pape. La réconciliation s'est imposée d'elle-même.
Donc Frédéric n'est pas tant vaincu que cela, ou en tous les cas, il est bien pragmatique.
Je ne crois pas l'avoir présenté comme vaincu. Et vous avez raison, c'est un pragmatique.
Alors, l'Église, c'est la première force centrifuge. Il y en a deux autres. C'est la première, d'ailleurs, chronologiquement, qui apparaît, en tous les cas, qui s'impose à lui. C'est la question des luttes internes en Germanie. Quelle place, dans l'histoire du règne, prennent ces luttes internes ?
Alors, les luttes internes à l'intérieur de la Germanie, c'est plus particulièrement du côté de son cousin. Son cousin Henri le Lion. Et ce cousin Henri le Lion, qui avait, lui, une conception différente de celle de Frédéric Barberousse, qui n'était pas partisan de ces campagnes italiennes. Et la rupture entre Frédéric et son cousin survient justement parce que Henri le Lion entend surtout porter ses efforts vers les pays slaves, vers l'Est, la conquête des terres de l'Est, et lui refuse les secours dont Frédéric Barberousse avait besoin en 1175 pour faire face à la Ligue Lombarde. C'est une rencontre qui a été souvent décrite, la rencontre de Cavenna, où là, Henri le Lion, qui avait jusqu'alors plus ou moins respecté la vassalité à l'égard de son cousin, Henri le Lion la rompt définitivement et Henri le Lion lui refuse les secours nécessaires pour faire face aux villes lombardes.
Mais pourtant, ils avaient été proches un temps.
Oui et non. Il ne faut pas oublier que Henri le Lion a dû céder une partie de son duché de Bavière en 156 pour la constitution du duché d'Autriche. Et d'un duché, d'ailleurs, qui, sur le plan féodal, a été un duché tout à fait particulier, puisque les femmes pouvaient y succéder et prendre le pouvoir, puisque, d'autre part, c'était le duc qui désignait lui-même ses successeurs. C'est un aspect tout à fait particulier et nouveau du régime féodal qui s'est imposé avec ce qu'on appelle le privilegium minus de 1156. Or, déjà là, Henri le Lion en est la victime, puisque son duché de Bavière, qui lui venait de ses ancêtres, son duché de Bavière a été amputé sérieusement de tout ce qui a constitué ensuite l'Autriche.
C'est un homme de pouvoir, Henri le Lion, et plusieurs reprises, on considère un peu la Germanie comme une diarchie.
On l'a considéré comme une diarchie. Il faut être assez prudent dans ce domaine, parce que la diarchie que l'on voit en Germanie, Henri le Lion n'a pas su, si je puis dire, véritablement s'imposer pour faire face à son cousin. Et au fond, il a subi les événements beaucoup plus qu'il ne les a dirigés.
Alors, vous êtes très net là-dessus. L'attitude de l'empereur, vous présentez la défaite, en quelques pages d'ailleurs, c'est assez rapide. Les revers d'Henri le Lion sont très nets.
Ah oui, ah oui, ça, les revers d'Henri le Lion, on ne peut pas les discuter. Henri le Lion a été contraint de... Et puis, il a été maladroit. Il a été convoqué devant la diète, il n'est pas venu. Et ça, c'est un fait.
Il y a eu un double jugement, je crois.
Oui, il y a un double jugement, mais le fait important, c'est qu'il n'est pas venu devant la diète. Et à partir du moment où il n'est pas venu, pour le premier jugement, qui était un jugement sur le plan de ce qu'on appelle le droit territorial, sur le plan féodal ensuite, il a été condamné parce qu'il n'a pas, obéi aux ordres de son seigneur.
Alors, vous écrivez l'attitude de l'empereur. Il fait venir Henri le Lion et vous décrivez la scène. L'attitude de l'empereur fut d'une part empreinte de générosité et d'autre part, elle manifestait l'inflexibilité du souverain lorsqu'était en jeu l'honor imperii. Il s'inclina vers son cousin agenouillé devant lui pour le relever. Ému, il l'embrassa, pleurant, mais il ne pouvait être question de pardon.
Non.
Et il va être banni.
Il va être banni, mais oui. Et vous savez, dans ce domaine, vous prenez Frédéric II et son fils Henri, c'est la même chose. Frédéric II, plus tard, en 1235, Frédéric II sera amené à bannir son fils et pleurera lorsque son fils mourra. Cette scène qui est là, elle est parfaitement normale dans le cadre de la sensibilité médiévale.
Alors, quelles conséquences précisément pour la féodalité, c'est ce que nous allons voir Pierre Racine dans un instant.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Frédéric Barberousse. Je reçois Pierre Racine, auteur d'une biographie sur ce personnage, parue aux éditions Perrin. Nous avons laissé nos auditeurs avec l'idée de ce bannissement d'Henri le Lion, le cousin de Frédéric Barberousse. Or, cet événement, vous l'écrivez dans votre conclusion, est un événement majeur pour le règne, puisqu'il évoque, au fond, il est révélateur de la mutation de la féodalité.
Oui, mais il est en même temps révélateur de la manière dont Frédéric Barberousse concevait son gouvernement en Allemagne. car en Allemagne, il entend gouverner avec l'appui des princes. Des princes, qu'il s'agisse des ducs, des comtes plus particulièrement, tous ceux qui font partie de ces assemblées qu'on appelle des diètes, des tags en allemand. Et dans ce cadre-là, il faut bien voir que Frédéric Barbusse a d'abord justement préparé cette hiérarchie féodale qu'on appelle du terme de Herrschildordnung, c'est-à-dire la pyramide qui part en bas des simples seigneurs, souvent d'ailleurs des serfs qu'on appelle des ministériaux, pour arriver par les stades successifs jusqu'aux ducs et aux princes qui sont au sommet de cette hiérarchie. C'est un moment important de l'histoire de la féodalité allemande, justement, que cet ordre nouveau qui a été ainsi institué par Frédéric Barbusse au lendemain du procès d'Henri le Lion.
Est-ce à dire que la centralisation est en quelque sorte policée ou qu'à l'avenir, au fond, on perçoit non pas un pouvoir centralisé, oui, mais un pouvoir décentralisé et que ce choix est sciemment réalisé par Frédéric Barbusse?
Je ne crois pas qu'il l'ait fait sciemment. Je crois qu'il l'a fait avec cet esprit qui était le sien, qui était l'esprit d'un grand seigneur féodal, qui pensait avoir réuni à lui tous les gens de cette classe féodale. Et le drame vient plus tard, parce qu'à partir de ce système de gouvernement qu'a institué Frédéric Barbusse, à partir du moment où le pouvoir central perd sa force, ce sont ces gens des classes féodales qui vont se révéler et qui vont demander à gouverner eux-mêmes. Et là, nous entrons alors dans un système tout à fait nouveau, qui est un système de décentralisation, sans aucun doute, mais un système qui a été très lourd dans l'histoire d'Allemagne, puisqu'on n'en est pas sorti jusqu'à notre époque. Les Länder actuels sont les héritiers de cette décentralisation qu'a promue Frédéric Barbusse inconsciemment.
Je parlais de trois forces centrifuges, ce sont les forces centrifuges évoquées donc dans la préface de Francis Rapp, l'Église, nous en avons parlé, l'aristocratie germanique, et enfin il y a les villes italiennes. Ah, et là encore une fois, on retrouve le pragmatisme de Frédéric, puisque vous dites, lorsque Frédéric y voyait son intérêt, il était loin d'être hostile au phénomène urbain. Cela concerne essentiellement l'Italie donc ?
Ah oui, parce que du côté allemand, vous savez, les villes de cette époque-là sont encore naissantes. La seule ville importante qui se dégage à cette époque-là, les seules villes, pardon, je vais en prendre une seule, il y a Lübeck, il y a Cologne, il y a Mayence, bon, puis il y a Fribourg-en-Brisgau, par exemple, Munich. Munich ne compte pas à cette époque-là encore.
Oui.
Munich qui a été fondée par Henri le Lion, d'ailleurs. Hein. Mais les villes allemandes ne peuvent pas se comparer avec ces villes italiennes. N'oubliez pas que des villes comme Milan vont, à la fin du XIIIe siècle, moi j'avais calculé que Milan avait 150 000 habitants. Hein. Paris est la plus grande ville d'Occident avec 200 000 habitants à cette époque-là. Milan vient immédiatement après. Venise, Gênes ont des populations de l'ordre de 80 à 100 000 habitants. Florence également. Mais nous sommes à la fin du XIIIe. Mais ce mouvement démographique est amorcé. Au XIIe siècle, les villes de cette plaine lombarde sont déjà des villes qui ont des populations de l'ordre de 20 à 30 000 habitants.
Alors nous avons dit que Frédéric n'a pas conscience du mouvement économique, de l'évolution de ces villes. En revanche, politiquement, il s'oppose. Il voit, vous décrivez notamment, un des exemples les plus importants, c'est sans nul doute Milan et la bataille contre Milan. Comment Frédéric agit-il face à ce mouvement politique urbain?
Alors, Frédéric a eu deux attitudes dans ce domaine. Première attitude, celle qu'il a développée entre 1156 et 1162. C'est une attitude brutale. Il s'appuie sur quelques villes alliées comme Crémone ou Lodi. Et en 1162, Milan est détruite. Milan est rasé au sol. Il ne reste que quelques maisons et la population est dispersée. Et puis arrive alors la reconstitution de Milan, très rapidement, soutenue d'ailleurs par les autres villes italiennes, et notamment des villes qui avaient été des rivales de Milan, comme Crémone. Tout simplement parce que Frédéric Barbarossa a imposé dans les villes italiennes des personnages qu'on appelle des podestas, et des personnages qui étaient trop brutaux vis-à-vis de la population et qui ont entraîné des révoltes de la population. Notamment, c'est le cas de la ville de Plaisance où le podestat a dû quitter la ville sous la pression de la population. Alors, à partir de ce moment-là, les villes concentrent leurs forces, elles s'allient, c'est ce qu'on appelle la Ligue Lombarde. Et à partir de ce moment, Frédéric Barbarossa est obligé de les combattre. Et il est obligé de les combattre à tel point que finalement, il se casse la figure. Quand les villes décident de fonder notamment Alexandrie, Alessandria en italien, Alexandrie qui se trouve dans une zone à l'extrémité du Piémont, entre le Piémont, la Ligurie et la Lombardie. Donc, en un angle important sur le plan stratégique. Elle se trouve d'ailleurs à proximité de la grande route qui mène de Milan à Gênes par Pavie. Et Alexandrie, c'est le nom du pape qui lui a été donné, le pape Alexandre III. Les villes étaient alliées du pape, elles lui ont donc donné. Et Frédéric Barbarossa considère que c'est une offense pour lui, cette création d'une ville. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de la détruire. Il essaye de la détruire, poussé d'ailleurs par les seigneurs féodaux de cette région, notamment le marquis de Montferrat. Et à ce moment-là, les villes unissent leurs forces et les villes sont capables d'envoyer des secours à Alexandrie. Et Alexandrie est sauvée par les autres villes. Le siège d'Alexandrie est un échec pour Frédéric Barbarossa. Et c'est un échec qu'il encaisse très mal. Et alors, c'était pour sortir de cet échec, il essaye de remonter une armée. C'est à ce moment-là qu'il demande des secours à Henri le Lion, qui ne les lui donne pas. Il vient en Italie à nouveau pour essayer de battre ces villes, et c'est lui-même qui est défait à Legnano. Et il est obligé alors de traiter avec ces villes. Seulement, il est le souverain. Donc, pour traiter, c'est lui qui essaie diplomatiquement d'imposer ses solutions, tout en négociant avec ces villes. Et on arrive à ce texte tout à fait original pour l'époque, qu'on appelle la paix de Constance, qui reconnaît l'autonomie de ces villes au sein du royaume d'Italie dont Frédéric Barbarossa était le roi en même temps qu'il était empereur. Et ces villes vont devenir des cités-États. Mais c'est important dans l'histoire d'Italie parce que c'est le fractionnement du royaume d'Italie et un fractionnement qui est appelé à durer jusqu'à 1860.
Là encore, dans son attitude, vous l'avez présenté comme dans sa première attitude, il fait preuve de dureté, il fonce en quelque sorte, mais il sait faire, au final, il sait faire preuve de pragmatisme, comme et par exemple avec le pape.
Oui, c'est le réalisme politique qu'il a eu tout au long de sa carrière, finalement. Ce n'est pas le seigneur dur, mais c'est le seigneur qui est capable de raisonner et qui est capable de comprendre les situations.
Il sait être dur malgré tout, parce que dans l'affaire de Milan, il sanctionne. Et puis alors, très concrètement, il fait détruire les remparts, c'est ça, il comble les fossés.
Et la ville, toute la ville a été détruite. Mais seulement, il était assez habile, c'est pas lui qui a détruit. Ce sont les ennemis de Milan, ce sont les gens de Lodi, ce sont les gens d'autres villes qui sont venus pour piller d'une part, et puis d'autre part, pour saccager et ruiner la ville.
C'est un de ses côtés. Est-ce que c'est un homme qui sait récompenser également la fidélité ?
Oui, il a su récompenser la fidélité, pas toujours de manière équitable, mais enfin, dans l'ensemble, disons que il a été surtout pas toujours bien conseillé par Reinald de Dassel. Il a été beaucoup mieux conseillé par Christian de Mayence. Et Christian de Mayence, il a été un moment, si l'on peut dire, mis sur la touche, Christian de Mayence. Puis il a été repris par Frédéric Barberousse. Et Frédéric Barberousse a su justement s'en faire un conseiller et savoir lui reconnaître ses mérites.
Est-ce que c'est un roi, nous ne l'avons pas évoqué, est-ce que c'est un roi intellectuel ?
Non. Sur le plan...
Il est plus dans l'action.
Intellectuel, il n'a pas eu le temps véritablement de pouvoir s'imposer. Et il faut bien dire qu'autour de lui, il n'y a pas véritablement de gens qui soient capables justement de s'imposer dans le domaine intellectuel. Ce ne sera pas le cas de son petit-fils Frédéric II.
Alors, il y a trois forces centrifuges. Il y a trois espaces géographiques, l'Italie, la Germanie, et le troisième, c'est la Méditerranée. Et cette Méditerranée, il se tourne vers elle à travers les croisades. Quoique, comme vous le dites, c'est un souverain terrestre, et il se rend par voie de terre vers Jérusalem.
Mais il y a un autre côté qu'il faudrait ne pas oublier, c'est tout de même cette affaire du mariage de son fils Henri avec la princesse sicilienne. Ce mariage, évidemment, quand on y pense, normalement, elle n'était pas destinée à succéder à son oncle Guillaume II, qui était qualifié de mauvais. Et normalement, Guillaume avait épousé une princesse anglaise, Jeanne, jeune, et il était possible qu'ils aient un héritier. Ça n'est pas venu. Et il se trouve que ce sera justement cette héritière Constance qui fera de son mari le roi de Sicile. Un roi qui sera brutal d'ailleurs. Mais du côté méditerranéen, il n'y a pas une véritable politique de la part de Frédéric Barberousse. Même cette affaire de Sicile, du mariage sicilien, n'a pas été une véritable affaire à travers laquelle il aurait véritablement tenté d'enfermer les États du pape. En revanche, la croisade. Alors la croisade, on ne sait pas très bien quels étaient les véritables mobiles. Il est parti. Il est parti et vraisemblablement, parce qu'il était le souverain d'Occident qui devait prendre la tête d'une nouvelle croisade pour délivrer Jérusalem que les musulmans venaient de reconquérir en 1187. Donc Saladin a défait les croisés à la bataille de Hattin et il a repris Jérusalem des mains des chrétiens qu'il avait conquises en 1099. Et il a pris la tête de cette croisade, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il l'a bien organisée. Alors, qu'avait-il véritablement en vue ? Il est difficile de le dire parce qu'il ne l'a jamais véritablement marqué. Et dans ce cadre de la croisade, il est parti en dirigeant cette croisade avec beaucoup d'autorité. D'ailleurs, il n'a pas voulu que, contrairement aux deux autres croisades, il y ait autour de l'armée ces pèlerins et autres gens qui vivaient sur les rapines qu'il faisait le long de la route qui les menait à Jérusalem. Il a voulu qu'il y ait son armée et qu'il soit maître de son armée. Il a négocié avec l'empereur byzantin pour pouvoir passer en Asie mineure. C'était une obligation. Il ne pouvait tout de même pas passer par l'Empire byzantin sans en demander l'autorisation. Et donc, de ce côté, rêvait-il d'être roi de Jérusalem, d'être le successeur, autrement dit, des rois du royaume latin de Jérusalem? On ne le sait pas. Mmh. On ne le sait pas. Toujours est-il que tout ce que l'on peut dire, c'est que l'honor imperii lui commandait de prendre la tête de l'armée de la croisade.
Quelle est la part du religieux? Parce que dans votre conclusion, vous reprenez là encore une trilogie, souverain chrétien, souverain féodal, souverain chevalier. Quelle est la part du chrétien dans la vie de Barberousse?
Il est chrétien et même au temps où il est en lutte avec le pape Alexandre III, il ne faut pas oublier qu'il a toujours rempli ses devoirs de chrétien, ses prières et assistance aux offices, et il a toujours respecté le clergé de ce côté. Donc, il est un souverain chrétien. Et il a notamment doté très largement les évêques allemands, il leur a donné beaucoup de propriétés, il y a beaucoup de diplômes qui figurent dans la masse que Heinrich Appelt a ramassée. Et de ce côté, on peut dire que c'est tout de même un souverain très proche de son Église nationale.
Hmm. Alors, vous décrivez sa mort, qui est une mort, on ne va pas dire bête, mais il meurt noyé, oui. on récupère malgré tout son corps, et sa mort fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la chrétienté.
C'est un coup de tonnerre d'abord pour son armée, car aussitôt après sa mort, son armée se disloque. Personne ne continue pratiquement, sauf un petit noyau qui essaie d'arriver jusqu'à Jérusalem. C'est véritablement un coup de tonnerre et on voit bien que c'était une armée qu'il dominait bien, qu'il commandait bien, et pour ces gens-là, perdre le chef, ça a été véritablement perdre pour eux tout ce qu'ils avaient engagé dans cette longue marche en direction de la Palestine. Et puis, il y a un autre côté, disons, qui est important dans cette mort, c'est que pour tous les gens d'Occident, c'était tout de même le personnage au-dessus de tous les autres souverains. Et donc, c'est le personnage clé à côté du pape qui disparaît et un personnage qui, justement, s'est engagé pour aller délivrer le tombeau du Christ.
Eh bien, c'est sur cette idée clé, Pierre Racine, que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle la référence de votre ouvrage, Frédéric Barberousse, 1152-1190, un ouvrage paru chez Perrin. Merci beaucoup.
Je vous remercie de mon côté.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.